un bienheureux pour notre temps, Louis-Édouard Sestac, prêtre et fondateur.
Une des plus grandes grâces que l'œuvre put recevoir. La vie du père Sestac est une course d'obstacles qu'il ne cesse d'affronter. Mais il reconnaît que le calme succède aux tempêtes et qu'il ne manque pas de consolation. Les âmes se formaient, dit-il. La pauvreté extrême qui était dans la maison aidait à entretenir l'esprit de mortification. C'était sans doute une nécessité rigoureuse, mais l'âme s'y prêtait avec bonheur et joie. Il croit à la résurrection de Jésus-Christ, non comme un fait relevant du passé, mais comme nous rappelle le pape François, comme une force de vie qui a pénétré le monde, et là où tout semble être mort, dans l'obscurité, commence toujours à germer quelque chose de nouveau qui tôt ou tard produira des fruits, et où l'évangélisateur est un instrument de ce dynamisme. Aussi, au cœur de cette pauvreté joyeuse qui vit l'œuvre, celle-ci va accueillir une nouvelle grâce, une des plus grandes qu'elle put recevoir, écrit le père Sestac. La consécration religieuse de ses collaboratrices et, entre autres, des sa sœur Élise et des gracieuses Baudin. En 1839, ces jeunes ont parcouru déjà un long chemin dans le don de soi. Le bon père connaît bien leur générosité, leur désir d'une vie donnée à Dieu, tout l'amour déployé auprès des enfants et des pénitentes. Mais il attend toujours de connaître la volonté de Dieu et le moment favorable. Il leur dit clairement au retour de sa retraite spirituelle de la Trappe de la Meilleraie: « Vous savez quelle est votre vocation, mes chères filles, et pourquoi la bonté du Seigneur vous a réunies en communauté. Je vous l'ai dit souvent, je ne connais pas encore les desseins de notre bon Sauveur sur nos petites œuvres et sur celles qui les dirigent. » La grâce dont parle le père Sestac trouvera son épanouissement à partir de novembre 1841. Une pénitente, infirme et malade, possédant un capital de 400 francs, désire consulter un docteur à Montpellier. Le père Sestac y consent et lui donne pour compagne et guide Gracieuse Baudin, sa directrice. En arrivant à Toulouse, la première pensée qui vint à la jeune fut de consulter un des plus célèbres médecins de la ville, chargé aussi du service médical du lycée. Dans leur conversation, celui-ci explique à Gracieuse la difficulté qu'il a au lycée au juger du suivi du linge et des malades et lui demande de transmettre au père Sestac leurs besoins de jeunes pour ce travail. « Monsieur le proviseur écrivit à Monseigneur Lacroix, arrivé à Bayonne depuis 1838. » Le père Sestac rencontra sans tarder Monseigneur Lacroix pour lui faire part des demandes reçues. Il écrit: « Sa grandeur me dit qu'on lui avait écrit à se juger et que pour lui, il n'y mettrait pas d'obstacle. Mais ajouta-t-il, avez-vous des jeunes? Avez-vous des règles établies? Et puis, vous ne pouvez pas détacher ainsi des personnes sans qu'elles soient liées par des vœux et par des liens religieux. » Je lui répondis: « Monseigneur, nous serons des jeunes. Des règles pourront se faire. Mais la consécration religieuse n'appartient qu'à votre grandeur. Et je puis vous dire que c'est le plus grand vœu, le vœu unique de toutes les âmes qui sont dans l'œuvre. Eh bien, les règles, allez-vous vous en occuper? Oui, Monseigneur. Mais j'aurais besoin d'aller me recueillir quelque part pour y travailler. Et si votre grandeur le veut bien, ce sera au sanctuaire de Bétarame que je vais me rendre. » C'est bien, me dit Monseigneur. Toujours en dialogue avec Marie, le père Sestac écrit dans ses notes. Ô ma bonne mère, c'était la parole solennelle attendue, et c'est sans doute vous-même qui l'aviez mise dans la bouche du représentant de votre divin fils dans le diocèse. Toute la communauté s'est mise en prière et je partis dans les premiers jours de décembre. Les constitutions ayant été rédigées, le père Sestac remit son travail à Monseigneur et il vint le voir 8 jours après. Monseigneur lui fit quelques observations très légères et lui dit qu'il fallait choisir le jour où se ferait l'institution canonique de la nouvelle congrégation. « Maintenant, me dit Monseigneur, nous touchons à la Noël. Il ne faut pas y penser. Puis, il sera le premier de l'an, jour de tracas, de visites. Ce sera impossible. » Et cherchant plus loin, un jour convenable, il tomba sur l'épiphanie. Le père Sestac nous livre dans ses notes la profonde signification que les choix faits par Monseigneur a pour lui et pour l'œuvre tout entière. « Le jour de l'épiphanie, écrit-il, jour de ma naissance et de mon baptême, avec le jour de mon sacerdoce, le plus grand, le plus solennel de ma vie. Jour où on adore l'enfant Jésus dans son humilité, dans sa pauvreté, son filial abandon dans vos bras et dans votre cœur maternel, ô la meilleure des mères. Le jour où les mages venant adorer ce divin enfant remirent sans doute entre vos mains l'or, la myrrhe et l'encens. La cérémonie eut lieu le 6 janvier 1842. Le temps était sec mais très froid, lisons-nous dans l'itinéraire marial. Les chemins couverts de glace ne permettaient ni cheval ni voiture. Monseigneur dut donc venir à pied. La pauvreté était extrême. Et ce que j'ai remarqué, ô ma bonne et très aimable mère, ce fut la joie inexprimable qui éclatait en toutes ces chères âmes lorsqu'elles eurent le bonheur de se consacrer à votre service. L'attente fut longue pour tous, mais le père Sestac sait que l'Église est une mère au cœur ouvert et que sortir aux périphéries humaines ne veut pas dire courir sans direction et dans n'importe quel sens. Souvent, selon le conseil du pape dans la joie de l'Évangile, il vaut mieux ralentir le pas, renoncer aux urgences et accompagner celui qui est sur le bord de la route. On comprend d'autant mieux l'immense joie vécue ces jours d'épiphanie à Notre-Dame du Refuge par les premières religieuses servantes de Marie et celle du vicaire de la cathédrale qui voit s'ouvrir devant lui un vaste champ missionnaire. Faisant mémoire de ces jours 20 ans après, le père Sestac peut écrire plein d'espérance. Vous aviez donc constitué votre œuvre, ô divine maîtresse. Elle pouvait, sous votre direction, commencer à projeter au loin des rameaux que vous aviez en vue et dont l'avenir est connu de vous seul.
Louis-Édouard Sestac, prêtre et fondateur, un bienheureux pour notre temps. Vous venez de suivre une émission proposée par Sœur Maria Ressus Iracheta, servante de Marie.